Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est comme de l'alcool, sauf que c'est un peu bon, dit un enfant avec gourmandise à propos d'un bonbon qu'il est en train de déguster. Ah, les bonbons. Mais que seraient les bonbons sans leur nom ? Berlingot de Carpentras, Bergamote de Nancy, religieuse de Moret. Et les bocaux transparents, la géographie de la gourmandise, les dragées, ancêtres des bonbons, lesquels bonbons sont souvent nés d'erreurs, ou à la suite d'une erreur. On les suce, on les croque, on les lèche. C'était dans De bouche à oreille, le 17 décembre 2000, sur France Culture.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, bonbons, bon bec et quelques délicatesses.
J'ai mis des années à comprendre que la neurasthénie et les scrupules de maman étaient une gourmandise refoulée, des grignotements d'âme, une délectation secrète comme quand on monte se coucher avec une boîte de bonbons, des dragées aux amandes ou à la pistache, des fondants au chocolat avec de la crème à la frangipane ou une coulée de kirsch au cœur, des marrons glacés, des caramels qui poissent les draps, des pralines. Blaise Cendrars, Bourlinguer, 1948.
Quand il s'agit de sucreries, on irait même jusqu'à déguster les mots du savoir-faire. Par exemple, le caramel et ses étapes de fabrication. Petit filet, petit boulet, grand cassé, lissé. Alors, on savoure les métamorphoses du sucre. Autre exemple, une définition. Un petit coussin de sucre battu, parfumé à la menthe Mitcham, et dans lequel s'est glissée une rayure de sucre caramélisé. Telle est la bêtise de Cambrai, et sur la boîte, on lit « La véritable bêtise ». Véritable, c'est authentique. La confiserie ne supporte pas l'imitation, la triche, puisqu'on viendra la chercher sur place pour l'offrir ensuite. À Cambrai, à Moret, à Nancy, à Tours, à Carpentras. Il existe ainsi une géographie de la friandise. Ce goût des mets délicats n'est pas forcément sucré. Friandise, précise Furtier dans son dictionnaire universel, se dit des choses qu'on mange pour le plaisir seulement et non pas pour se nourrir. Plaisir d'adulte, jusqu'au XIXe siècle, depuis l'aristocratique praline, et puis régal d'enfant au sortir de l'école, avec les bons becs, les si moelleux gélifiés, visqueux et élastiques, ou les caramels chewing-gum.
Moi, j'aime bien les bonbons.
Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, bonbon. Reportage à Berck-Plage, la confiserie de Micheline et Jean-Yves Matifas, à Paris avec Christophe Archambault chez Fouquet. Entretien avec Annie Perrier-Robert, historienne du sucre, et dégustation avec Ange, Jacques, Marie-Gabrielle et Marie-Vonne. Comment le goûtez-vous ? Micro-ondes. Juste un mot, bonbon.
Le mot bonbon, qui est en fait le redoublement de l'adjectif bon employé par les enfants, date du XVIIe siècle, du début du XVIIe, et désigne aujourd'hui un article de sucre cuit. Les petits bonbons sont apparus en fait au XIXe siècle avec l'essor de la confiserie de sucre à travers la démocratisation du sucre de betterave. Et le mot friandise autrefois désignait aussi bien les petites choses salées que les petites choses sucrées. En fait, les amuse-gueules d'aujourd'hui sont en quelque sorte des friandises. Mais le mot friandise à l'heure actuelle est exclusivement employé pour désigner des sucreries.
Reportage.
Des carambars, des malabars aussi. Des sucettes aussi. À la fraise.
À la fraise, ouais.
Oui, à la fraise madame.
Des chamallows, j'aime bien aussi.
J'aime bien les petites bouteilles de coca, voilà.
Nous sommes chez Marie-Vonne autour d'une table ronde. Ange, 7 ans. Jacques, 3 ans. Marie-Gabrielle, 8 ans et demi. Leur bonbon préféré.
Alors, j'aime bien les têtes brûlées.
Ouais.
Alors, c'est des petites boules qui piquent.
Et voilà.
Il y en a tous les goûts.
Ça pique pas très fort.
Oui.
Ça pique pas très fort.
Alors, j'aime bien aussi les longues-langues. Longues-langues.
Les longues-langues.
C'est quoi?
C'est comme si c'était un long fil qui... qui pique un petit peu avec du sucre.
Mmh. Et ça, on suce, on croque, on lèche, on mord.
On peut faire un peu tout. J'aime bien les chewing-gums. Les sucettes chewing-gums.
Ah, il y a des sucettes chewing-gums, ça existe?
Oui.
Comment on fait pour manger une sucette chewing-gum?
On suce une sucette, puis à la fin
t'as le chewing-gum.
À la fin, t'as le chewing-gum.
Ouais.
Et tu peux le coller sur la sucette aussi.
Ça claque, on peut faire des bulles, mais pas très grosses.
Ce que je trouve plus à la boulangerie, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je n'en trouve plus. C'était des petites souris en caramel dur, enrobées de chocolat au lait. C'était très bon, c'était mignon, et puis j'adorais ça, vraiment.
Annie Perrier-Robert est l'auteur de plusieurs livres sur le sucre, dont « Bonbons et friandises » aux éditions Attier.
À l'origine, les anciens préparaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des friandises à partir de fruits ou de graines, fruits frais ou fruits secs aussi, enrobés de miel. Ensuite, lorsque le sucre a été introduit en Occident à la faveur des croisades au XIIIe siècle via la Sicile, les friandises ont peu à peu substitué au miel le sucre. Mais cette substitution s'est faite extrêmement lentement, compte tenu du coût fort onéreux du sucre qui était vendu par les apothicaires. Et c'est à partir de la Renaissance qu'on a vu apparaître les premières recettes écrites, d'ailleurs sous la plume d'apothicaire, concernant les friandises, qu'on appelle aujourd'hui bonbons. Mais le mot friandise est un peu plus large que bonbon. Quand on pense à bonbon, on pense à bonbon de sucre cuit, dur ou fourré. Mais friandise, le mot peut couvrir les nougats, les massepains, les pâtes de fruits, les fruits confits, qui ne sont pas vraiment des bonbons.
Le premier jour que l'heureuse aventure conduit vers toi mon esprit et mes pas, tu me donnas pour mon premier repas maintes dragées et maintes confitures. Ronsard.
Sans crainte, vous pourrez croquer de nos bonbons. Amandes, diablotins, pralines, macarons, vous nous en direz des nouvelles. Catalogue et almanach du goût et de l'odorat, 1773.
Au XVIIIe siècle, on connaissait le nougat déjà. Dès le XVe siècle, on voit des traces du nougat. On connaissait les dragées, parce que les dragées sont apparues très tôt. En fait, ce sont les ancêtres des bonbons. Dès qu'on a enrobé un fruit sec de sucre, on a débouché sur la dragée. Il y a eu aussi les premières dragées, qui étaient les dragées de Saint-Roch, qui étaient des baies de genièvre enrobées de sucre. Et la dragée de Verdun est apparue au XIIIe siècle. Donc au XVIIIe, on a eu aussi les pralines de Montargis, qui ont été créés par le maître queue du duc de Choiseul-Praslin, qui a fait une erreur et qui a inventé, sans le vouloir, ce bonbon encore extrêmement apprécié à l'heure actuelle. Mais il faut dire que beaucoup de bonbons sont nés d'erreurs. Au XIXe siècle, la chose a été extrêmement fréquente. On avait également au XVIIIe les pâtes de fruits et les fruits confits, qui sont connus depuis le Moyen-Âge. En effet, le miel et le sucre ont servi à conserver les fruits. Et notre premier grand écrivain de confiserie, en l'occurrence Michel de Nostredame, alias Nostradamus, nous décrit la confection des pâtes de fruits et des fruits confits, c'est-à-dire des confitures sèches qu'on pouvait mettre dans la poche et déguster facilement par opposition aux confitures liquides qui sont les gelées, les confitures actuelles.
Alors par la suite, à quel moment on suçait ou on croquait des bonbons ?
On croquait déjà les épices de chambre au Moyen-Âge, hein, qui favorisaient la digestion et qui permettaient de digérer après ces repas particulièrement riches en sauce, en venaison et que l'on emportait dans la chambre, d'où le nom d'épices de chambre. Donc on les croquait déjà. Certainement, ces bonbons-là ne peuvent pas soutenir la comparaison avec les bonbons extrêmement polis et joliment colorés de l'époque actuelle. Ils étaient rugueusement bosselés et d'un aspect souvent rudimentaire. Mais on s'est surtout mis à croquer des bonbons au XIXe siècle, quand le sucre de betterave a été instauré en France grâce à Napoléon à la suite du blocus continental. Cela a permis la démocratisation des petits bonbons, des bonbons de sucre cuit, et a permis au grand public d'accéder à des friandises qui jusque-là étaient réservées aux couches sociales particulièrement riches et élevées. Il y a eu le berlingot de Carpentras, il y a eu la bergamote de Nancy, qui a été inventée aussi au XIXe siècle, et je précise en passant qu'aujourd'hui, la bergamote de Nancy est le seul bonbon français qui bénéficie d'un label d'origine, le label Lorraine. Et on a surtout relancé des sucres cuits qui, au XVIIIe siècle, avaient été créés. Alors au XIXe, on retrouve notamment le sucre d'orge des religieuses de Morée. On trouve également l'anis de l'abbaye de Flavigny. Il faut dire que nombre de fabriques de bonbons ont dû fermer leurs portes pendant la Révolution et la fabrication a été relancée quelques décennies après la Révolution.
Et ça, on appelait les artisans confiseurs, ceux qui fabriquaient les bonbons, ou ils avaient un titre spécial ?
Depuis le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on les appelait confiseurs ou confituriers, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait confiture sèche et confiture liquide. Donc, confiseur était synonyme de confiturier.
Et alors, où est-ce qu'on vendait les bonbons, par exemple, au XVIIIe, au XIXe siècle, surtout au XIXe siècle ? Dans quelle sorte de boutique ?
Les bonbons ont été longtemps vendus par les épiciers. Ce sont les apothicaires qui avaient le monopole de la vente du sucre et de la transformation du sucre en friandises. Et les épiciers n'étaient autorisés qu'à vendre les produits fabriqués par les apothicaires. Ensuite, on a vu apparaître, à la fin du XVIIIe et surtout au tournant du XIXe, d'innombrables boutiques de confiserie où on allait acheter toutes sortes de friandises. Et notamment à Paris, il y a eu la célèbre rue des Lombards où se retrouvaient tous les confiseurs. Et c'est Balzac qui a dit « cette rue sue le sucre », effectivement. C'était là qu'on se précipitait en fin d'année pour s'approvisionner en friandises.
C'est quoi ?
Alors, attends.
Des drôles de friandises.
Alors, tu vas en prendre un. Tu en prendras un, tu vas dire comment il est.
Celui-là. On peut dire que c'est comme de l'alcool, sauf que c'est un peu bon. C'est drôlement bon. C'est bon les sucres. C'est croquant.
Je vais en prendre un blanc, non ?
On m'a dit un autre.
C'est un berlingot à la banane, je crois. Mais ça a vraiment un goût de banane, alors qu'habituellement, les bonbons à la banane un peu chimiques, l'arôme n'est pas très réussi. Et là, vraiment, on identifie immédiatement le parfum.
C'est quoi ce truc?
Moi, c'est une perle au cassis.
Ouais, c'est une perle au cassis, c'est ça.
Ô grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai mes prières pour avoir des bonbons. Chanson ancienne.
Une bigoudine vous a calimoudja. Atachoum, atachoum, tirez les kachoum. Va chez sa voisine, madame l'araignée. Atachoum.
À Berck-Plage, tout près de la mer, le succès berquois. Dans la petite boutique, on prépare les berlingots et les sucettes. 24 parfums. L'odeur d'anis domine. On travaille le sucre devant témoin. Micheline Matifas.
Nous avons quelque chose qui est très spectaculaire, qui est très joli à voir, c'est quand on file le sucre.
Voilà, c'est-à-dire
le sucre filé. Mais le temps de refroidissement est différent. Et en général, nous le faisons quand notre marbre est déjà bien chaud pour moduler, pour limiter le temps de refroidissement. Parce que filer le sucre, on dit également satiner le sucre ou tirer le sucre, blanchir le sucre. Tout ça, c'est des mots différents pour dire la même chose. C'est-à-dire que la boule, on va l'accrocher et on tire dessus. Alors, ça le fait changer de couleur. C'est-à-dire que du sucre transparent qu'on a au départ, on va avoir un sucre satiné, opaque, plus clair, dont la couleur sera différente. C'est très joli, mais c'est plus difficile à faire. Si vous regardez les bocaux, vous allez voir qu'on a rouge vif et nous l'aromatisons à la cerise. Le même rouge de départ, quand il est filé, il devient rose. Et ce rose, nous l'aromatisons à la fraise. Alors, le vert, qui est vert vif et qui est à l'anis, lorsque le sucre est filé, ça devient vert clair et nous l'aromatisons à la pistache.
Énorme coulée visqueuse de sucre bouillant sur la plaque de marbre. Et tout de suite, la spatule soulève la masse.
Dans ce sucre cuit qui a été coulé sur la table de marbre, comme il est liquide, on peut introduire des choses extrêmement variées. Alors là, je vais verser un colorant et puis un arôme. Nous faisons là des bonbons à l'anis et on a mis un colorant vert. Et quand ça sera bien mélangé, tout sera vert.
Ça fait joli d'ailleurs avec le jaune-orange. Ouais.
Alors c'est marbré d'abord et puis quand tout va être mélangé, ça sera uniformément vert.
Vous le touillez avec une spatule.
Alors, vous allez voir que ça refroidit quand même très vite.
Ah oui.
Parce que les règles qui n'avaient pour fonction que de limiter la surface de coulée, on peut maintenant les bouger, ça ne coule plus. Et comme on a mis de l'huile sur le marbre, on va pouvoir le décoller et on va le mélanger.
J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai cru que ça allait s'effondrer complètement. Mais non, pas du tout. Vous le soulevez simplement.
Ah oui.
C'est encore mou.
Ah, c'est mou et c'est très chaud. Hein. Alors, regardez, ça, c'est extraordinaire. J'ai découpé un petit morceau qui va, s'y méprendre, ressembler à du verre. Alors, le sucre et le verre se travaillent exactement de la même façon. Ce sont deux matières qui se travaillent chaudes, qu'on peut façonner pendant qu'elles sont chaudes, et qui vont garder une forme en refroidissant, et après ça casse. Et la vérité, c'est que des objets fabriqués en sucre, vous en avez tous vu, sans savoir qu'ils étaient en sucre. Parce qu'on utilise ça dans tous les trucages de cinéma et de télévision, chaque fois qu'on a besoin de briser du verre.
Les voici sur ma table, mes cosaques. Je les tiens, je les contemple, je leur souris, je leur parle. Il y en a d'écarlate, de bleu, de jaune, de vert. Ils bruissent, ils frissonnent, ils donnent à ma chambre un éclat particulier. Oh, oh, celui-ci que j'aperçois dans ce coin ressemble tout à fait à certains cosaques d'autrefois. Un cosaque d'il y a 20 ans, que j'ai fait partir avec une de mes cousines un premier de l'an comme aujourd'hui, et dont je conserve toujours la devise, toujours. Charles Moncelet.
La pâte chaude de sucre est malléable, étirable, plastique et translucide. Micheline Matifas roule rapidement des petits boudins qu'elle va tailler au ciseau.
Nous coupons des petits carrés, des berlingots, et nous les coupons en coussins. Il y a d'autres manières de découper les berlingots. C'est de tourner la bande, par exemple. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir des coussins, on a des bonbons qui font des pointes. Mais ça, c'est la forme particulière des berlingots de Carpentras. Mais vous imaginez, avec une pâte malléable et aussi belle, tout ce qu'on peut faire avec du sucre. Alors nous, nous faisons particulièrement des fleurs et des décorations comme ça. Mais on peut aussi s'amuser à faire des objets, à faire des petits animaux, à faire des tas de choses.
Les rafraîchissements se composent d'eau sucrée, d'eau rougie, de bière, de tartines de pain et de beurre déchaudés, de macarons, de pruneaux et raisins secs, d'amandes, de noix, de pâte de réglisse et de guimauve, de sucre d'orge et de sucre candi. Comtesse de Ségur, Jean qui grogne et Jean qui rit, 1865.
À quelle époque est parée la sucette ?
On trouve la sucette au début des années 1920. C'est un confiseur de la région parisienne qui a eu l'idée, en voyant que les enfants dans les fêtes foraines se mettaient sucer les sucres d'orge et se mettaient du sucre sur les doigts. Ce confiseur a eu l'idée d'incorporer un petit bâtonnet en bois. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en bois, il est souvent en plastique ou en papier mâché. Donc, d'incorporer un petit bâtonnet pour que les enfants puissent sucer agréablement des bonbons. Et en fait, il a créé la sucette en forme de fer de lance, la célèbre sucette Pierrot Gourmand. Une image qui était connue depuis la fin du 19e pour un confiseur, car il a eu l'idée de demander à l'affichiste Montmartre Villette de créer une image pour sa confiserie. Et Villette s'est inspirée de Bureau, qui était le grand mime du 19e siècle, extrêmement célèbre. C'est d'ailleurs le mime qui est au cœur de l'histoire des Enfants du Paradis de Marcel Carnet.
Et le cotignac, c'est un sucre cuit ?
Non, le cotignac c'est une gelée de coing qui est coulée dans une petite boîte ronde en épicéa. Et le cotignac est la spécialité d'Orléans. Le cotignac existe depuis le Moyen-Âge. À l'heure actuelle, je crois qu'il n'existe plus que deux fabricants à Orléans, mais ça reste la grande spécialité d'Orléans.
Mais c'est difficile de manger ou de sucer le cotignac. Comment on fait ?
Ça se lèche, et comme exactement le roux doudou qui est venu bien après et que l'on connaît encore aujourd'hui, comme certains bons becs qu'on trouve à l'heure actuelle.
Qu'est-ce que c'est des bons becs ?
Les bons becs, oui, c'est un néologisme. Le nom est explicite. En fait, ce sont les bonbons de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Ce sont ces gélifiés aux couleurs phosphorescentes, extrêmement vives, et aux arômes très contrastés, où le naturel laisse un peu la place à l'artificiel.
C'était des abyssins, c'était des négus au chocolat tiède et fondant et dont la robe de caramel dur et brillant avait quelque chose d'un vernis de violon ancien. C'était enfin des lolottes de Nevers, pâtes de fruits onctueuses enrobées dans un sari de sucre dur qui faisait la passion de mademoiselle. Pascal Quignard, le salon de Württemberg, 1986.
La boutique de Christophe Archambault, confiseur, lumière d'hiver à travers les bocaux. Il y a des transparences dorées, par exemple, cette noix captive d'un caramel cristallin.
Vous vous trouvez là devant le comptoir des bocaux transparents de sucre cuit. Par exemple, des sucres cuits à la violette et au coquelicot, qui sont des petits acidulés plats, parfumés à l'huile de coquelicot et à l'essence de violette. Vous avez un certain nombre de parfums, vous avez les fruits rouges, les oranges sont des huiles essentielles, les fraises, ce sont des extraits des pulpes de fruits, la bergamote qui est une huile essentielle, la mandarine qui est une huile essentielle. En règle générale, les agrumes sont des huiles essentielles. Puis vous avez également des petites perles cerises, des petites perles groseilles qui sont là, des acidulés faits avec soit des alcoolats, soit éventuellement des extraits de fruits. Puis vous avez sur la droite toute la série des bonbons caramélisés. Ces bonbons caramélisés que vous voyez, qui sont très translucides et qui ressemblent à des bijoux, sont des fruits, c'est-à-dire les noix fraîches, les noisettes venant du Piémont en Italie et les amandes sablées, enrobées dans un caramel dur, et les salvators, qui portent dans d'autres régions d'autres noms, qui sont des caramels mous au beurre frais et à la crème fraîche, enrobés dans du caramel dur.
Alors, ils ont une transparence absolument extraordinaire. Annie Perrier-Robert, oui. Vous les connaissez bien, ceux-là.
Oui, oui, on trouve effectivement à Nevers un bonbon qui s'appelle le négus et qui a été créé au début du siècle lors de la visite officielle de l'empereur éthiopien Ménélique. Et c'est un bonbon au chocolat, c'est la grande spécialité de Nevers, auquel on a ensuite associé un petit frère, l'abyssin, qui est au café.
Vous utilisez du sucre de betterave ou du sucre de canne ?
Sucre de betterave pour la confiserie, sucre de canne pour les confitures.
Alors là, il y a des fondants.
Le fondant, c'est un sucre qui a été cuit à un certain degré et qui a été massé sur un marbre à l'origine. Quand on le faisait manuellement. Aujourd'hui, c'est fait avec ce que l'on appelle des vis sans fond, c'est-à-dire que ce sucre cuit à un certain degré, en l'occurrence 120 degrés centigrades, est refroidi en étant manipulé, massé, et vous obtenez à la sortie une pâte de sucre. Cette pâte de sucre étant réchauffée, elle se liquifie, et après avoir imprimé des coffrets d'amidon de maïs dans lesquels on a donné des formes, on coule ce fondant qui a été parfumé soit à la framboise, soit à la fraise, soit au citron, soit à l'orange, soit à la vanille. Et en refroidissant, ce fondant se solidifie. Puis quand il est solidifié et qu'on l'a sorti de cet amidon de maïs, on le laisse séjourner le lendemain pendant 4 ou 5 heures dans un sirop de sucre qui est à un certain degré, que l'on appelle le candy. Et la cristallisation du sucre à l'intérieur de ce sirop se fait sur la partie supérieure du bonbon et ça vous permet d'avoir un fondant quand vous le croquez qui est très moelleux à l'intérieur.
Moi, je vois des bonbons blancs, des bonbons
jaunes
et des bonbons violacés, rose marron.
Ah, c'est mou. Voilà. Un peu le goût du savon.
Ça a l'air d'être à la vanille.
C'est très bon et c'est fondant dans la bouche.
Et c'est délicieux.
Comment la goûtez-vous, la Forestine ?
À l'intérieur se trouve un praliné extrêmement moelleux et c'est là tout le secret de la Forestine, associer le croquant au cœur tendre du praliné
Je crois que c'est une réussite absolument exceptionnelle, d'autant que c'est, comme j'avais dit, le premier bonbon fourré.
Micro-ondes, le grand livre du sucre d'Annie Perrier-Robert et Marie-Paul Bernardin est paru aux éditions Solar. Le salon de Wurtemberg de Pascal Quignard chez Gallimard et Bourlinguer de Blaise Sandras chez Folio. De bouche à oreille par René Elkaïm Bollinger. Aujourd'hui, bonbons, bon bec et quelques délicatesses. Avec Annie Perrier-Robert, Micheline Matifas, Christophe Archambault, Jacques, Ange, Marie-Gabrielle et Marie-Vonne. Texte lu par Frédéric Cantrel et Marie-Vonne Abolivier. Documentation Catherine Madure. Mixage Simone Ronger, Éric Villenfin. Réalisation Véronique Villa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 décembre 2000.